C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Bonjour, c'est Charles Cécile. Ça se passe au Champval, un drôle d'endroit où forêt et humain se parlent couramment. Sous le châtaignier, trois hommes discutent de leur rencontre avec les invisibles. Non, pas les fantômes et autres esprits errants, mais les gens de la rue, ceux qu'on ne voit plus. Avec leur spectacle Les Invisibles, Éric Castanet, le photographe, Maurice Tardieu, le conteur et directeur artistique du Festival Saint-Gilles, et Éric Derrien, poète, jongleur et agitateur verbal, partagent la voix des sans-voix pour rendre visibles les invisibles. Notre amie, la conteuse Paul Latore, est allée à leur rencontre en Ardèche pour en savoir un peu plus sur ce spectacle fragile entre conte et réalité. C'est le sud, les grillons et la brise d'été s'invitent sur nos micros et amplifient ou atténuent les paroles. C'est pas pour dire, c'est parti pour une nouvelle aventure.
I still have a dream.
Moi, je suis Éric Castanet. Depuis une douzaine d'années, je me promène avec mon appareil photo en bandoulière. J'ai eu quelques mois d'errance en 2012 maintenant, donc ça fait 10 ans. Une errance qui m'a permis de rencontrer des gens, des itinérants, des gens de la rue, que j'ai photographié, puis qui m'ont parlé. Je me suis un petit peu intéressé à ce qu'ils avaient à me dire, le pourquoi du comment ils se retrouvaient là dans la rue. Et j'ai écrit ces histoires que j'ai accumulées comme ça dans un cahier, mais que je gardais pour moi. De temps en temps, je balançais quelques images sur Facebook, de temps en temps quelques textes aussi. Et puis un jour, en 2013, je rencontre Maurice Tardieu qui animait un atelier conte à Saint-Gilles. De fil en aiguille, on s'est fréquenté. J'ai commencé à lui raconter un petit peu mes histoires. Et il a commencé à s'y intéresser. Puis j'ai montré mes images, puis j'ai montré mes textes. Et de fil en aiguille, comme ça, on m'a un peu encouragé quand même malgré tout à sortir ces textes et ces images du milieu, du microcosme du net. Pour le montrer à d'autres gens. Donc on m'a financé une exposition. Tout ça pour dire que j'ai montré ces images. Les gens sont intéressés à mon travail, en particulier Maurice Tardieu. Et donc j'ai fréquenté son atelier. J'ai commencé à voir comment on pouvait raconter des histoires. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'écrire mes propres histoires, de faire un spectacle avec Maurice et Éric. Voilà.
Bah, moi, c'est Éric Derrien. Certains prétendent que je suis conteur. D'autres disent que je suis qu'un agitateur verbal. Bon, d'autres que je suis enseignant, je trouve ça super bizarre, rien que le mot enseigner, je m'en méfie comme de la peste. En fait, tout a commencé quand j'avais 17 ans, je crois, et j'ai regardé le monde qui nous entoure, et je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce gâchis? Pourquoi il y a des gens qui ont faim, il y en a d'autres qui se gavent? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à détruire la planète, qui est pourtant si jolie, comme disait Prévert? Du coup, je me suis barré de ce système, de ce monde-là. je me suis retrouvé à faire la rue, à faire la manche dans la rue, à ramasser trois bouts de bois pour me faire un petit feu quand je voulais faire un café. Par hasard, hein, comme on dit, c'est quoi le mot hasard? C'est chemin de la destinée. Même un coup de dé n'empêchera pas de hasard. Je me suis retrouvé dans le désert. Et là, j'ai compris un truc, en fait. C'est qu'en France, c'est la culture qui va pas. C'est la culture qui va pas parce que là-bas, j'ai rencontré des gens qui, à l'échelle d'un peuple, tout le monde mange ou alors personne mange. Toutes ces portes sont ouvertes, il y a d'hospitalité, ça partage, il n'y a pas de police. On achète une maison sur une simple parole, enfin voilà, on sait vivre ensemble. Et du coup, je suis revenu en France. Alors, j'ai été enseignant cirque, puis je me suis mis à raconter des histoires avec des fées et des lutins. On m'a dit que j'étais conteur, voilà. Et j'ai rencontré des photos d'Éric dans un premier temps, et puis ces anecdotes de ce petit monde de la rue.
Quoi qu'a dit Rhin, quoi qu'a fait, a fait Rhin, et quoi qu'a pense, pense à Rhin, et pourquoi qu'a dit Rhin, qu'a fait Rhin, pense à Rhin, a existe pas. C'est un poème donc de Jean Tardieu, et il se trouve que, pour reprendre les propos de Eric, je m'appelle Maurice Tardieu. Mes collègues ont dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur notre rencontre, donc je ne vais pas en rajouter. Donc Maurice Tardieu, conteur et plein d'autres choses, intéressé par par le vivant, par ce qui fait sens, par ce qui bouge, par ce qui ne bouge pas. Voilà en gros ma position.
C'est pas pour dire au Champval, en compagnie de Éric Castanet, Maurice Tardieu et Éric Desrien. Le vent et les grillons jouent avec les êtres humains. Et aussi les micros, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble?
On va rentrer dans la jeunesse d'Invisible. Il y a 5 ans maintenant, et je dois en parler, il y a une conteuse qui s'appelle Catherine Caillot qui a aimé ce que j'écrivais, qui a aimé aussi mes images, qui m'a dit, tiens, pour mon festival Contes sous le tilleul, ça serait bien si tu pouvais accrocher tes images et puis nous faire une expo contée. Voilà. Ah, alors sur le moment, j'étais un petit peu embêté parce que, accrocher les images, il n'y a pas de problème. Raconter mes images comme ça, il n'y a pas de problème. Mais expo compté, il y avait le mot compté dedans, ça veut dire un minimum de structure, un minimum de cohérence. Et ça, je ne savais pas trop faire. Donc c'est là la première fois que j'ai vraiment demandé à Maurice Tardieu de m'aider à structurer une petite demi-heure de racontage d'expo compté et qu'on avait appelé les Manus. Parce que tout le monde s'appelait Manu, tous les gens de la rue, je les avais appelés Manu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Manu dans la rue. Et donc, j'ai écrit ça, sous le regard expert de Maurice Tardieu, et cette expo comptée a existé, et ça a bien marché, ça a bien plu, on a touché pas mal de gens, et cette année-là, Contes sous le tilleul, il y avait aussi Éric Desrien qui était dans le public. Et d'ailleurs, c'est juste l'hiver d'avant qu'on s'était rencontrés, parce qu'il avait fait un apéro conté avec Maurice Tardieu au Gros du Roi, je crois. Hein.
Ouais.
Voilà, donc ça avait matché un peu tout de suite. Et donc, on se retrouve à Contes sous le tilleul, il est là, il voit ce qui se passe avec ces images et cette petite histoire d'une demi-heure qui approche un peu les invisibles. Et toujours pour lui rendre hommage quand même, Catherine Caillot m'a dit un jour, enfin à la fin de ce festival, m'a dit « tu verras un jour, t'en feras un spectacle ». Voilà. Et c'est resté comme ça en suspens, mais c'était dans un petit coin de ma tête. Et donc ces images, après cette expo au Comté, ont continué à exister. Les petites histoires des Manus existent toujours. Et j'ai accroché ces images-là un jour à l'IFME, c'est l'Institut de formation des métiers de l'éducation à Nîmes, hein, parce que le big boss, le patron de l'IFME, a vu ces images sur le net. Il m'a dit, je voudrais bien que tu accroches ces images chez moi. Voilà. Et donc j'accroche donc mes images chez eux. Eric, je ne sais pas si tu étais là quand j'ai fait la première expo chez eux. Je ne me rappelle pas.
Non.
En tout cas, Maurice était là. Parmi les gens présents, donc au vernissage, il y a une dame qui s'appelle Françoise Lautrec, qui est la présidente de l'association Les Pélidos, qui est une association qui aide à fournir des logements d'hébergement d'urgence pour les gens qui sont en difficulté, les femmes, les migrants maintenant aussi. Et elle a vu donc ces images-là et elle m'a dit « Waouh, ton regard sur la rue m'intéresse vachement ». Et l'année prochaine, c'est les 40 ans de l'Espélido et j'aimerais beaucoup que tu apportes ton expo et qu'on fasse quelque chose là-dessus. Mais là, elle me dit, mais j'ai remarqué que dans tes images, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors qu'on sait maintenant que dans la rue, il y a autant de femmes SDF que d'hommes SDF. C'est moite-moite, mais on voit moins les femmes. Donc elle me dit, j'aimerais bien que tu me fasses un travail sur les femmes, un travail d'image. Elle me dit, et puis vas-y, moi je me financerai les tirages, toujours sur de la ludibon. Et moi je m'avance un peu, je dis, ouais, mais et puis en même temps, tu verras, je te raconterai leur histoire. Et là je me rends compte que je ne suis pas conteur. Je ne suis vraiment pas conteur. Et donc j'ai dit, oups, je me suis peut-être engagé un peu trop vite. Maurice Tardieu qui était là, on était déjà amis. Et me dit, bah, écoute, c'est pas grave, je vais t'aider. Je vais t'aider à structurer de nouvelles histoires pour présenter tes images. Éric Derrien, qu'on rencontre un petit peu plus tard, me dit, bah, écoute, moi ça m'intéresse vachement. J'aimerais bien faire partie de l'aventure. Et je pourrais, comme il a dit tout à l'heure, et il a touché un peu aussi à la rue, etc. Donc touché par mes histoires. Et donc on va écrire un truc à 1, 2, 3, 4, 6 mains, voilà, et on va structurer un spectacle. Ah, bingo, c'était bien, moi j'ai dit ok, tout, il n'y a pas de problème, mais comment on s'y prend? Et là je ressors toujours cette petite phrase, parce que c'est vraiment vraiment un point hyper important. Maurice nous dit, bah, tu vas écrire un spectacle qui ne soit pas spectaculaire pour rendre visibles des invisibles. Voilà, maintenant débrouille-toi avec ça. Un sac à dos bourré de cailloux, un sac flanqué de tonnes d'oripeaux à expier tard ou tôt. La route en a fait son affaire et de tous mes nœuds en a fait des vœux. Kerouac a croisé ses clochards célestes sur la route, j'ai croisé les miens sur mon chemin. Après le début du début, il n'y a eu que des images, trait pour trait pour en faire des portraits. Des paysages de visages tout aussi beaux les autres que les uns, paysages que j'ai fait miens. Après le début du début des images, il y a eu des mots qui ont nourri des phrases qui ont fonté des pages et des pages de vie à tourner et à lire et à relire. Alors à présent, il y a toutes ces histoires sans histoire que je m'emploie à faire valoir pour changer nos regards.
Et puis il y a les rencontres, les belles rencontres qui font les contes et qui racontent. C'est ainsi que dans un élan formidable, nous, les trois amis, nous avons fait du joli avec du pas beau, du sans bon avec de l'acre, de l'espoir avec du noir.
Un extrait de Les Invisibles, un conte fragile et sensible pour changer notre regard sur les gens qui vivent dans la rue.
En fait, dans cette construction d'invisible à six mains, on s'est tous retrouvés à aller au-devant de notre risque, au-devant de nos trouilles. Donc d'un côté, pour Eric, toutes ces histoires de vie de la rue, de se retrouver sur scène à les dire en public. Moi, ces deux cons m'ont fait chanter. Le sens interdit depuis que j'ai 7 ans, quoi, sauf si je veux arroser. Donc pour arroser, ouais, je pouvais chanter, hop, s'il pleut, comme Assurance Tour X, quoi. Et ces deux cons ont choisi, dans ce que je proposais par rapport à ce taf-là, uniquement soit des slams, soit des chansons de ma pomme. Et un texte de Manu Larsenet, Blast, qui est magnifique. Donc ça me foutait au-devant de mes trouilles les plus intimes. Et Maurice Tardieu, après 30 ans de compte, a décidé de relever le défi de fermer sa gueule pendant une heure sur scène. Et ça, pour un conteur, c'est super balèze. Donc on est tous trois au-devant de nos risques. Mais ce que je trouve important aussi dans cet aspect trio, c'est qu'en fait, ça amenait trois projecteurs. Quatre projecteurs même, je dirais, en fait. Il y a des anecdotes d'Eric, des histoires de vie, des tranches de vie, ce côté journalistique. Il y a cette présence silencieuse de Maurice où, en fait, en une heure, il incarne, juste par sa présence, de façon vibratoire, le fait de l'invisible, de cet homme que personne ne regarde, que personne ne voit. Et sur l'heure, l'invisible va devenir visible. Et là, quand nous deux, on quitte sa scène, il n'y a plus que Maurice, en tout cas, c'était la formule de base, et il raconte une histoire. Alors, pour une raison très technique au départ, c'est en nous disant... Comme ça, on pourra tourner sur les festivals de contes. Non, on ne va pas ça raconter. Il y avait ça à jouer. Mais en fait, ça permet, d'un côté, le regard journalistique d'Eric, cette présence juste silencieuse de l'invisibilité par Maurice. L'histoire de contes permettait de soulever aussi, sous la forme d'une histoire, des tenants et aboutissants, parce que c'est pas pour rien s'il y a des gens dans la rue. Ça va avec le fait qu'il y a des gens qui ont 3 yachts et 2 jets privés. Donc, l'histoire permettait de généraliser, d'aller sur quelque chose de beaucoup plus large, comme le sont les contes. Et ces slams, ces textes ou chansons que moi je mettais, étaient dans l'objectif aussi de faire entendre qu'il n'y a pas eux et nous. Il n'y a pas des exclus et des inclus. Non, on est tous des bonhommes et des bonnes femmes. On a les mêmes failles, on a les mêmes fêlures. Et du coup, c'était une façon d'essayer de faire entendre nous, en eux et eux en nous. Faire entendre aux gens du public que ben, ces failles, ces fêlures qu'ils peuvent voir chez les gens de la rue, ils les ont eux aussi à l'intérieur, on les a à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ces textes où je parle uniquement de moi, de ma tronche, de mes petites élucubrations émotionnelles, sensationnelles, de mes petites déchirures, en fait, ben, dans ce spectacle, je parle avec des déchirures des Manu de la rue. C'est les mêmes. Et du coup, ça fait 4 projecteurs pour tourner, pour surfer autour de ces invisibles, quoi.
La peur toujours, le manque d'amour. La peur toujours, la rage autour.
Je mens toujours. Je dis que je ne me souviens de rien, que je suis né du matin. Mais il me suffit de fermer les yeux. Dans le noir, tout me revient. Chaque taloche, chaque balafre, chaque regard, je me souviens de chacun de vos mots. Je me souviens comment vous me les avez plantés dans le corps. Le temps n'y fait rien, je me souviens de tout. Enfant immobile, silencieux, courbé, quand vous me parliez, je scrutais votre bouche.
La peur toujours, le manque d'amour. La peur toujours, la rage autour.
L'autre jour, j'ai vu un jeune SDF assis sur son sac, ses chiens bien serrés contre lui à cause du froid. Et devant lui, un petit carton qui ne demandait rien d'autre que d'être compris. On pouvait y lire « Être invisible, c'est nul ».
La peur toujours, le manque d'amour. La peur toujours, la rage autour.
Se poser sur une marche de vitrine, un pas de porte et attendre. Attendre quoi? Ben, tout simplement qu'il se passe quelque chose.
Le loup solitaire hurle à la lune et la lune ne répond pas. Tant pis.
C'est pas pour dire, toujours avec nos trois compères, en compagnie de Paul Latorre.
Je trouve ça intéressant, toi tu dis, la musique, les chansons, c'est les respirations dans le spectacle. Et oui,
pour moi, ouais.
Pour l'avoir vu, pour toi c'est les respirations, mais dans le spectacle, je ne trouve pas que ce sont des respirations.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de respirations dans le spectacle, en fait. En tout cas, dans l'ensemble. Alors chacun de nous, oui, on a besoin de respirer de temps en temps, sinon on implose, on explose, c'est dégueulasse, on s'en fout partout. Mais je crois que justement, il y a ce truc qui est tenu et qui a été fait pour. Que non, on respire pas, on va pas vous laisser tranquille. On va pas divertir les gens. Au contraire, quelque part, on cherche à invertir. On parle pas de quelque chose qui est hors sol, hors vie. On rentre dans la vie, c'est qui fait mal aussi. Et il y a des gens qui... Bon, on en a fait pleurer quand même pas mal. Ça arrive à peu près, il y a au moins une personne qui pleure à chaque fois. Bon, ça fait partie du truc. Ben, c'est le cru de la vie, quoi.
Nous sommes trois êtres différents, avec des histoires, des parcours différents. Et ce que l'on a réussi dans ce spectacle, c'est à se respecter. Respecter nos différences et arriver à en faire quelque chose de commun. Et il y a, je pense... beaucoup d'amour dans cette rencontre. Il y a une bienveillance, il y a une compréhension de l'autre, de nos différences. Et c'est vrai que nous sommes vraiment tous les trois différents au niveau fonctionnement. Mais on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne à trois sans qu'il y en ait un des trois qui prenne le pouvoir sur quelque chose, le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'exister. Alors pour parler de ma position plus particulière, c'est vrai que pendant tout le spectacle, je ne bouge pas, je suis immobile, dans une position centrale sur scène, et pendant 1h10, je ne dis rien, je ne bouge pas un petit doigt, je ne bouge pas un sourcil, c'est une immobilité pas statique. Une immobilité en mouvement, que j'appelle. C'est-à-dire que pour pouvoir rester 1h10 dans une position immobile, je ne suis pas un bout de bois. Donc il y a une espèce d'incapacité. Donc il a fallu que je trouve à l'intérieur de moi ce qui me, même dans l'immobilité. Et l'avantage de cette prise de position-là qui m'intéressait, c'était un peu, ça correspondait à la frayeur de tout conteur. C'est-à-dire on est sur scène et puis on ne dit rien. On est simplement là, présent, tu vois, c'est comme, voilà. Et l'intérêt de cette histoire-là, c'est que ça me permettait d'être dedans, mais d'être dehors. Et donc, ça me permettait d'avoir une vision d'ensemble qui allait permettre justement de pouvoir, avec toutes ces différences, arriver à faire quelque chose de commun.
Aussi particulièrement sympa là-dedans, c'est qu'en plus, on n'est pas d'accord. Enfin, quand on dit qu'on a des regards différents, c'est que même sur les gens de la rue, sur ces problématiques-là, sur ceux dont on témoigne, on n'a pas les mêmes regards, on n'est pas... On est vraiment trois personnes différentes qui passent notre temps aussi à nous engueuler. Mais avec Love, c'est tellement bon de s'engueuler ensemble.
Et c'est vrai que comme on dit Maurice tout à l'heure, même si on est trois, ou Eric, je ne sais plus, si on est trois, on a une unité quand même. Et cette unité-là, je crois qu'elle se ressent dans le spectacle, et en tout cas entre nous, ça, on le ressent fortement, quoi. Voilà, c'était juste pour rebondir sur la bienveillance et comment on peut donner vie à un bébé et que ça se passe bien.
Éric Castanet, Maurice Tardieu et Éric Desrien nous parlent de Les Invisibles.
Il y a deux retours qui nous ont confirmé que ça valait le coup. Alors il y a un retour, c'est la présence invisible, immobile et silencieuse de Maurice, où quelqu'un vient nous voir après et nous dit « Mais qui bouge pas comme ça, qu'on voit à peine au fond pendant une heure ?» Ça m'a fait penser à ce gars dans le métro qui vient pour me taper une pièce et je lui dis « Non, désolé, j'ai donné il y a 5 minutes, ce sera une autre fois. » Et le gars, il me répond « Merci, madame. Vous avez entendu, je vous ai dit non. Oui, oui, mais vous m'avez regardé. » Boum, confirmation de ce projecteur, de cette présence silencieuse de Maurice. Et, alors ça, on nous l'a dit plusieurs fois, ces gens qui, 2 semaines après, qu'on croise ou 1 mois plus tard, et qui nous font maintenant, je leur dis bonjour. Donc, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que je crois que monter sur scène, de toute façon, c'est une bienveillance pour le monde. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit pratique, ça sert à quelque chose. Quand Homer raconte l'Odyssée, on y apprend comment on transforme un bout de bois en quelque chose d'aussi dur que des aciers. Dans la grotte du Cyclope, on apprend comment on pêche du thon. C'est pratique, quoi. C'est fait pour vivre toutes ces histoires. Et là, invisible, on a vu ce résultat en retour du public. C'est que ça contribue chez certaines personnes au moins à changer le regard qu'ils ont sur ces clampins et ces clampines qui sont collés sur le trottoir complètement bourrés dans la rue. Et ils leur disent bonjour. Ah, on n'est pas complètement inutile en fait. Ah chouette.
D'abord, moi, je sais pas parler. Alors, je risque pas. Hein. Je me risque pas à décrire les couleurs de la petite chanson qui me bouscule à l'intérieur. Je me risque pas à dire de bruits de la lumière qui m'éclaboussent ce fond d'âme quand je te regarde, quand tu me regardes, quand je sais pas quoi dire parce que je sais pas parler. D'abord, moi, je sais pas parler. Je sais crier, gémir, hurler, vomir. Je sais vociférer, digresser, dialectiser, théoriser, argumenter, éructer, poétiser. Je sais verbaliser tous les faux fuyants, tous les faux semblants. Mais parler, non, ça, je sais pas. Ça fait trop peur. D'essayer d'entendre cette voix en dedans, cette petite voix d'enfant de 5 ans, avec son petit cœur qui bat tout le temps, qui bat trop fort. trop violemment. Laissez cette petite voix-là causer. Je sais pas faire. Je sais pas parler.
Tu parlais, Eric, d'une écriture à six mains.
Ouais.
Donc, tu avais tes textes au départ que tu avais écrit tout seul. Puis, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu une deuxième phase d'écriture où vous étiez ensemble. Est-ce qu'avant d'écrire, vous vous êtes parlé du projet, de ce que vous vouliez que soit ce spectacle, ou est-ce que c'est en le faisant que les choses sont venues et que la cohérence entre vous trois...
Bon, alors à ce niveau-là, moi je peux dire comment ça s'est passé, c'est qu'il y avait des textes bruts, voilà, qui étaient écrits de façon plus ou moins littéraire, des textes qu'on a posés sur la table, qu'on a lu à trois, etc. Et le premier travail qu'on a fait, c'était de dire ça on garde. Comme on fait tout dans les contes en règle générale, hein, tu nous as toujours appris ça, Maurice. C'est que voilà, il y a la structure. Soit on dégage pour ne garder que l'essentiel et ce qui est vraiment fort. Donc quand on a fait ce travail-là, voilà, on a fait ce travail-là à tous, ben dire ben ça non, ça pourquoi pas. Ça, on va tenter. Oh, ça, alors vraiment pas du tout, quoi. Donc voilà, ça a été la première phase vraiment de travail.
L'écriture à six mains, c'est l'ensemble du spectacle qui est une écriture à six mains, avec des écritures à deux mains de Eric, des écritures à deux mains de Maurice, des écritures à deux mains de moi. La rencontre de tout ça, forcément, il y a des choses qui ont bougé dedans, de par notre rencontre. Mais je crois que le pourquoi, le comment de ce spectacle, c'est en effet construit dans nos têtes au fur et à mesure qu'on le fabriquait. C'est comme un bébé, tiens, je reprends l'image, comme un gamin qu'on accompagne et qu'on comprend comment on l'accompagne et vers où on l'accompagne en même temps qu'il grandit. Je crois que ça, c'est vraiment les deux se sont entremêlés et qu'au fur et à mesure qu'il est joué, on peut mieux comprendre certaines de nos intentions et du coup les affiner. Ce qui fait qu'il bouge toujours, quoi. Il y a des trucs qui... La dernière fois qu'on a fait cet hiver, des trucs qu'on a fait complètement disparaître et on s'y sent aujourd'hui mieux. On n'aurait pas pu faire ça il y a deux ans.
C'est con parce qu'au fond, c'est bien la seule chose qui mériterait de se faire entendre. Cette petite voix-là, cette petite voix toute faible, toute fébrile, pas sûre d'elle. Cette petite voix peureuse, cette petite voix heureuse. Enfin heureuse ou malheureuse, c'est tout comme. Cette petite voix, elle reste bloquée en dedans, trop souvent. Elle se recroqueville à l'intérieur. Elle essaie de se cacher, de se terrer, de se dissimuler derrière tous ces mots vains que je disperse aux alentours, comme une averse de discours, comme une avalanche de discussions, de digressions. Tout ça pour cacher cette petite voix. La seule qui mériterait d'être entendue, cette petite voix peureuse, heureuse et malheureuse.
Un extrait de Les Invisibles. C'est pas pour dire au Chanval, en compagnie de Éric Castanet, Maurice Tardieu, Éric Desrien.
Ce travail commun, des moments où vous êtes dit « Non mais là je me trompe, enfin, je vais pas faire ça », où vous avez eu envie de vous désolidariser de ce projet, de vous barrer, quoi.
On va faire encore une fois court, jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, à aucun moment, j'ai traversé un doute. Quand on a travaillé dans ce projet-là, c'était, je crois qu'on s'est engagé malgré nos parcours différents, nos histoires différentes, on s'est engagé à 100%. C'est-à-dire, on l'a fait comme si c'était une question de vie ou de mort. On était là. Et donc, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun moment donné, j'ai dit, non, mais attends, là, je suis parti dans quelle guerre. Des fois, on le rencontre, hein, on va pas se le cacher. Des fois, on accepte de faire des choses avec des gens, et puis, au bout d'un moment, on se dit, putain, mais dans quelle galère je me suis foutu, quoi. Ben, jamais. Je crois que je peux être le porte-parole de tout le monde, là, en disant ça. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. On a rigolé. Faut vous dire quand même que on a travaillé un spectacle sur les SDF urbains, hein, essentiellement d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres SDF qui ne sont pas urbains. Moi, j'en connais un particulièrement. Je viens de rencontrer un gars dans les Cévennes qui vit depuis 7 ans. Dans une Seat Ibiza vert pomme. Et il vient de passer 6 hivers et 7 printemps. Donc ça existe. Il y a d'autres types de SDF. Et donc on a travaillé ces anecdotes d'SDF urbain au Chamval. Et si, pour ceux qui écoutent un peu attentivement la vidéo, l'audio que nous sommes en train d'enregistrer, je suis persuadé que vous entendez les cigales. Je suis persuadé que vous entendez la petite brise qui vient caresser le micro. Et dans cette condition-là, et en intégrant cette condition-là, on a réussi à se brancher sur des histoires de SDF urbains. On se rend bien compte que entre les gens qui sont arrivés, qui se sont assis, et les gens qui ensuite vont se lever, mais là, pour l'instant, à la fin du spectacle, ils restent assis, il s'est passé quelque chose. Et donc, du coup, on a même agrandi, je dirais, le territoire du spectacle, parce que pour remodeler tout ça, il est parti de photos, il est parti d'une exposition comptée, il est parti et ça aboutit sur un spectacle. Voilà, Zator. Mais on s'est bien rendu compte que il se passait quelque chose après. Et donc, on a intégré dans le spectacle, après le spectacle et après les saluts, un temps pour respirer, pour en discuter, pour faire sortir ce qui émerge. Et c'est un des moments peut-être les plus importants du spectacle. C'est ce moment d'échange qui nous est apparu complètement indispensable en voyant ce qui se passait après le spectacle.
Vraiment, le truc qui est les 2 ou 3 dernières fois qu'on l'a fait, on s'est retrouvé dans des conditions. Bon, on n'était plus sur une grande scène, on n'avait plus tous les projecteurs comme on avait réglé, etc. Et on avait un grand fond noir. Et Eric, Derrien et moi, à la fin de nos prestations à nous, quand on laisse la place à Maurice Tardieu, on était derrière ce rideau et on attendait que Maurice ait terminé. Donc en fait, jusqu'aux 2 dernières fois, on n'avait jamais vu Maurice raconter le dernier conte, qui a un lien avec ce qu'on avait dit tout le long. Et pour moi, ça a été un grand bonheur le jour où j'ai pu me retrouver dans le public, à écouter son histoire. Et du coup, j'étais même plus dans
je veux dire, dans mon spectacle, dans ce qu'on a, dans notre, j'étais public. Et ça a changé beaucoup de choses. Même moi, dans mon regard sur notre travail commun.
Ça fait partie aussi des choses qu'on a commencé à penser différemment, qu'on a maturé différemment. C'est-à-dire, on a fait péter le quatrième mur. Au départ, en effet, on avait un fond de scène où on faisait des entrées-sorties avec Eric en coulisses, des moments où on disparaissait complètement. On avait le travail de lumière, on avait tous ces artifices, en fin de compte. On a fait péter le quatrième mur, on a fait péter tout ça, en s'asseyant quasi au milieu des gens. Alors non, on n'est pas au milieu, on est quand même en face d'eux pour qu'on puisse se voir. Mais à 1m50, on est là, il n'y a plus de quatrième mur. Alors, ça pourrait être, soyons honnêtes, pour une raison, comme ça, on ne trimballe plus de matériel. Fond de scène, lumière, on n'installe plus, on ne s'emmerde plus. Est-ce que c'est parce qu'on a vieilli? Ou je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose qui a maturé. Et que sans ce quatrième mur, on est plus dans cette rencontre, on est nous aussi invisibles. On est nous aussi des Pékins assis sur un bout de bois, une chaise ou une caisse retournée. On est là, tout simple, à poil, quoi.
Hey, Anna! La poésie est dans les ruines aussi? Elle n'est pas là pour nous complaire. Elle n'a pas à se faire jolie, à se présenter à nous dans ses plus beaux atours. Bien coiffée, bien maquillée, manucurée, liftée, siliconée. Oh non. La poésie est dans les ruines aussi. Venue déchirer nos œillères, elle grince, elle grogne, elle crie. Elle déchire sa robe, seule au milieu de la cour, et reste là dénudée devant nos yeux effarés. Elle ne prend pas la pose, elle s'expose. La poésie est dans les ruines aussi. Elle reste là, dressée dans la fraîcheur du petit jour, les lambeaux de sa robe traînant à ses pieds, livrant aux yeux de tous son vieux corps fatigué, son corps marqué par les années. Elle ne veut plus le dissimuler, ce corps tant de fois maltraité, bousculé, piétiné, violenté. Elle ne veut plus le protéger. Elle veut le laisser jouir, jouir de son inexpugnable soif de vie. Enfin nue, elle reste là, sous les caresses du vent, et s'il pleut, tant mieux. L'onde fécondera son corps frissonnant, son corps ruisselant, son corps offert à tous les ferments. Elle jouit la poésie, elle jouit de chaque instant. Parmi les décombres et les gravats, elle grogne de plaisir, hurle son désir, fait entendre ses soupirs, et enfin, enfin, laisse résonner son rire. Son rire tonitruant, son rire effrayant, son rire qui vient vomir sur les passants un flot de sang nouveau, annonçant les prémices d'un présent émerveillé, d'un instant révolté, d'un regard enamouré. Dans les ruines aussi, la poésie dans les ruines.
C'est pas pour dire, toujours avec nos trois compères, Éric Castanet, Maurice Tardieu et Éric Desrien, en compagnie de Paul Lator.
J'avais une autre question par rapport à la peur dont tu as parlé tout à l'heure, Éric. Et je me disais, en dehors de ça, d'aller au-delà de sa peur, qu'est-ce que ça vous a appris
Ben moi, clairement, ça m'a appris la scène. Ça m'a appris la présence. Ça m'a appris à être attentif à l'autre, même si j'ai encore un peu du mal avec ça, parce que c'est vachement compliqué d'être à trois sur scène et de sentir les énergies de chacun et de s'en imprégner et de le rendre, ça. Parce que c'est pas évident non plus. Et du coup, ma peur, moi, d'être au point sur la restitution d'un texte, elle a disparu petit à petit avec cette faculté-là de faire avec de comment on se sent tout simplement sur scène, avec l'énergie du moment et l'énergie que les copains peuvent parce qu'on le sent derrière. Hein. Moi, je sens Eric, je sens Maurice, mais je ne fais que les sentir parce que je les vois pas vraiment.
Moi, je trouve que la question de base, elle est super balèze. Qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, peut-être qu'on pourra mieux y répondre dans 15 ou 20 ans. Ces problèmes des traversées, hein. C'est pas quand on traverse l'Atlantique, c'est pas quand on est arrivé de l'autre côté qu'on a des expériences, qu'on sait ce qu'on a vécu. C'est quand on est revenu. Il y a toujours ce chemin du retour. Je crois que, comme tu disais, hein, bon, on est allé dans nos trouilles chacun. Ça, c'est un truc auquel je crois très fort dans la vie. Va au-devant de tes peurs. Surtout quand il y a cette jonction entre une grande, grande trouille et un grand désir. C'est là qu'il faut aller. Et du coup, on était tous trois en des traversées intimes. Dans cette traversée, Eric s'a déjà dit, en fait. On y a gagné au moins de la confiance. De la confiance en chacun, ce type de traversée. De la confiance dans le fait même de se jeter dans une traversée. C'est, je ne pourrais pas répondre plus précisément que ce truc en pédagogie. Hein. Apprends à des jeunes à relever des défis. Donne-leur le plaisir du défi. Comme ça, ils apprendront à relever de plus en plus de défis. Donc, ils apprendront de plus en plus. Ils jetteront de plus en plus à l'eau. Donc on s'est jeté à l'eau, on a toute cette trouille, on est encore dans l'eau. C'est-à-dire que la traversée, elle n'est pas terminée. Je pense que la prochaine fois qu'on va jouer, Eric aura quand même encore la trouille de se retrouver à raconter en public. Moi, je me pisserai dessus parce qu'il va falloir que je chante. Maurice aura la trouille de cette relation à la présence. Sans trac, on fait rien de toute façon.
Après, pour répondre plus précisément à ta question, moi, ça m'a. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je crois que Invisible pour moi a été un tournant majeur dans raconter les histoires, parce que je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas d'autre histoire à raconter que notre vie, que notre présent, que ce que nous traversons, que les choses que nous rencontrons, etc. Et que auparavant, c'est vrai que j'avais un peu tendance à isoler, je dirais, le conte de la vie. On raconte des histoires, plus ou moins bien, et Dieu sait, pour aller à l'encontre d'Éric Cassalet, que je ne suis vraiment pas un expert de ça, j'ai effectivement un certain répertoire à ma disposition, mais Invisible est venu marquer quelque chose, c'est ce qu'il y a à raconter, c'est nous, ici et maintenant, avec les choses que les gens impriment, rencontrent dans la vie, etc. Et donc, c'est pour moi, Invisible, pour moi, est un aspect charnière. C'est-à-dire que je pense pas que je puisse raconter des histoires depuis Invisible comme je le faisais avant.
Ça, c'est super. C'est super parce que justement, je pense qu'on ne raconte jamais que ce qu'on vit, que cette vie qui nous entoure, ce monde qui nous entoure, nos différents nous-mêmes à l'intérieur de notre propre tête qui s'engueulent les uns contre les autres. Je pense que si on raconte une histoire qui a 1000, 2000, 3000 ans d'âge, c'est pour aujourd'hui, c'est au service d'aujourd'hui, ça ne peut pas être autre chose. Si ça peut être autre chose, et cette autre chose, c'est de la merde. C'est une entreprise du divertissement. Si c'est juste pour faire joli, si c'est pas au service du vivant, aucun intérêt.
De plus jamais regarder un SDF de la même façon, en me disant derrière ce qu'il est aujourd'hui, derrière l'humain qu'il est, même s'il est couché par terre ou assis par terre, eh ben, il y a une histoire. Et je me suis dit, ben, je vais dorénavant essayer de comprendre pourquoi il est là. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et donc je me suis aperçu qu'on n'est jamais dans la rue par hasard. C'est qu'à la base, il y a toujours une faille, une fêlure qui peut être depuis l'enfance, qui peut être un accident de vie, un divorce qui se passe mal, la perte d'un enfant ou d'un conjoint, et on ne le vit pas bien, et on ne gère pas bien ce moment-là, et que si on n'est pas accompagné par des amis ou par de la famille, eh ben on peut plonger très vite. Donc on n'est pas dans la rue par hasard, il y a toujours une raison. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Je me suis dit, je vais essayer de partager ça avec les gens qui avaient un peu la même idée que moi, c'est-à-dire, c'est qu'un pochetron, c'est qu'un faible, ou c'est qu'une faible, ou c'est qu'un jeune branleur qui ne veut pas travailler. Et donc, avec cette idée-là, et à travers Invisible, j'ai voulu témoigner que Nordine, c'est un gars qui se retrouve sur un fauteuil roulant, qui fait une gangrène, on lui coupe les jambes. Comment tu vis le handicap dans la rue ? Anna, sociologue, voilà, qui le jour d'une rupture assez violente avec son mari, elle pète un câble, elle se retrouve assise sur un banc, elle perd toute connexion avec la réalité, elle se retrouve dans la rue. J'ai voulu montrer aussi, à travers des petits sketchs qu'on fait avec Eric, que dans la rue on rigole bien aussi. On picole beaucoup et qu'en fait on n'a rien à envier à ce qui se passe des fois dans les bistrots du dimanche où il y a des piliers de comptoir et qui partent dans des espèces de délires et on rigole bien. Donc on rigole bien aussi dans la rue. Il y a un petit moment où je parle de justement du regard qu'ont les gens sur les gens de la rue où on ne se rend pas vraiment compte qu'en face de soi on a un être humain. Alors on lui parle sans penser vraiment lui faire du mal, mais de façon pas très respectueuse. Et puis, il y a aussi l'histoire d'une maman qui perd son enfant et qui, par cette espèce de violence du décès de son gamin, se retrouve dans la rue. Et puis, la dernière histoire où c'est tout simplement une fille qui a subi depuis son enfance des attouchements sexuels qui fait qu'elle a toujours eu une vie un peu compliquée et une relation compliquée aux hommes qui font que c'est la violence, c'est l'alcool et c'est la prostitution. Voilà. Donc ce sont des histoires bien structurées qui démontrent que à chaque fois, il y a bien une raison pour laquelle on peut se retrouver dans la rue. Mais ce qui relie tous ces gens-là, c'est qu'il faut être extrêmement fort quand même. Il faut avoir une sacrée force de caractère pour vivre dans ces conditions-là.
Je mens toujours.
Quelles sont les limites de cette existence et de ces corps meurtris dans leur chair?
Je mens toujours.
Je dis que je ne me souviens de rien, que je suis né du matin.
Il me suffit de fermer les yeux pour que vous m'épargniez. Je me suis effacé, 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 effacé.
Le temps n'y fait rien, 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 rien.
Coupable, coupable. Je me suis effacé. Effacé.
paire de plaies infiniment réouvertes
de cette vie dégueulasse. Enfant étouffé. De cette vie dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse.
Dans le noir, tout me revient.
De cette vie dégueulasse.
Chaque balafre.
Cette vie dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse.
Chaque taloche. Enfant étouffé sous le poids de ce que j'étais, vous m'avez piétiné mille fois. Chaque regard
de cette vie dégueulasse, immobile. Cette vie dégueulasse, silencieux.
Je bois sans savoir quoi. Je bois. Je ne sais même plus pour qui ni pourquoi.
Chienne de vie. Dégueulasse. Refiler la rage.
Du coup, c'est un spectacle qui montre que il n'y a pas la rue. Il y a des gens, des histoires. Il y a des rues. Pour chacun d'entre eux, c'est une rue différente. C'est une histoire différente, comme on est tous différents. Et il y a tellement des rues qu'il faut préciser, je pense que c'est hyper important. Maurice précisait que là, on parle des SDF urbains et on parle des SDF urbains qui subissent la rue. Parce qu'il y a vraiment des rues, il y a aussi des gens qui choisissent ce mode de vie. Il y a des gens qui choisissent d'être clochards, mais il y a aussi des quantités de nomades, il y a des quantités de saltimbanques, de troubadours, de gens qui se retrouvent à faire la manche en ville. Le lendemain, ils sont dans une cabane en montagne. Il y a vraiment des rues, il y a autant d'histoires et que ces failles, justement, qu'ont tous les gens SDF urbains qui subissent la rue, ben mine de rien, on a tous des failles, nous, êtres humains.
La rage. Pour passer inaperçu, j'ai pris la couleur des murs. Pour que vous m'épargniez, je me suis effacé.
J'ai scruté votre bouche.
Et monsieur tout le monde, comme vous et moi.
J'ai scruté votre bouche. Scruté.
À chaque seconde. Coupable.
Épargné. Invincible.
Effacé. Coupable.
Épargné. Invincible.
Invisible. C'est nul.
Je me régalais en écoutant Maurice dire « Qu'est-ce que c'est ce spectacle ?» C'était ta question de base. Mmh. Et en fait, d'une certaine manière, il a dit tout ça. À la fin, son histoire est une mise en abîme, un regard sur notre responsabilité à tous qui construisons ce monde et cette société. Et il finit, au moment du salut, comment il finit en fait ? Il nous appelle. Mais il ne nous appelle pas nous. Il appelle un écho, une fêlure. Et ben, peut-être que là, dans cette dernière phrase, avec sa présence invisible qui a duré une heure, il y a sa mise en abîme dans le conte, et il y a un écho, Éric Castanet, car dans ses témoignages, il se fait l'écho de ses histoires de vie. Une fêlure, moi-même,
ben ça pouvait...
parce que dans ses textes, je laisse voir que des fêlures intimes, mais qui sont des fêlures intimes partagées. Particulièrement par les gens de la rue, particulièrement par les punkachiens aussi, mais partagé par tous. Du coup, c'est ça, c'est une mise en abîme d'un écho et d'une fêlure.
Voilà, c'est comme ça que notre émission se termine aujourd'hui, avec nos invités, le trio des conteurs, les clochards célestes, Éric Castanet, Maurice Tardieu et Éric Desrien. avec Les Invisibles, un voyage au bout de la rue pour raconter la solitude des SDF avec des portraits bouleversants, pour donner la parole à ces écorchés vifs, les écorchés vifs de la rue. Un merci à notre complice et conteuse Paul Latore qui a été à l'origine de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.c'estpaspourdire.fr. Nous envoyez des commentaires ou des suggestions aussi sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres. Ciao!
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile. I still have a dream.